le smartphone de nos quotidiens qui révolutionne la guerre et peut-être conduit la Russie à la défaite en Ukraine. Ainsi nous explique Mathieu Suc sur le site Mediapart dans une analyse limpide sur la guerre au temps des réseaux sociaux. Réseaux sociaux sur lesquels la population ukrainienne a pu en temps réel renseigner son armée sur l'envahisseur. Car les réseaux de télécommunications ukrainiens sont restés intacts à 90%. Les Ukrainiens sont restés sur leurs applications. Ironie parmi elles, la messagerie cryptée Telegram, inventée par des Russes. Le gouvernement a réorienté une plateforme mise en place contre le coronavirus. Covid-19 Telegram est devenu Ukraine Now, Ukraine Maintenant. Ses abonnés y postent des photos, des informations sur les mouvements de l'ennemi, qui devient une cible facile pour les troupes mobiles ukrainiennes, renseignées par des millions d'espions. Alors, par Mediapart, on comprend ce qu'on avait sous nos yeux de manière éparse. Il y a deux jours, le site du Monde mettait en ligne une interview passionnante du ministre ukrainien de la transformation digitale, Mikhailo Fedorov. Il expliquait comment il avait aussi transformé une application nommée DIA, 17 millions d'utilisateurs, normalement vouée à l'état civil. Elle est devenue un service en ligne pour géolocaliser l'ennemi. À Irpin, une des villes proches de Kiev, conquise puis évacuée par les Russes, Mediapart avait déjà rencontré Yuri, un entrepreneur qui avait monté un réseau d'informateurs avec ses clients. Alors voilà, la nouvelle guerre s'ordonne devant nous et on comprend maintenant pourquoi les Russes, dans les villages qu'ils occupaient, confisquaient les téléphones, les épluchaient et les cassaient. Vous lirez dans le Wall Street Journal, que traduit et publie l'Opinion, ce qui est arrivé à Veliki Bobrik, un millier d'habitants. Traversés par les Russes en février, les Russes y sont revenus 3 semaines plus tard. Ils venaient de subir une attaque et les smartphones en étaient la cause. Les villageois avaient créé un groupe de discussion sur une messagerie Viber qui recensait leurs mouvements. Toutes les petites mémées du village, Lige, envoyaient des photos des convois. L'envahisseur s'est vengé, il a détruit des téléphones, il a battu des gens, il a emmené 6 hommes avec lui dans sa retraite. On n'a pas de leurs nouvelles, cette cruauté-là n'est pas contemporaine.
On parle aussi d'une vieille guerre.
Et celle-là, Léa, forge encore notre imaginaire. Car le Figaro littéraire nous dit la grande guerre de 14-18, dans laquelle fut plongé et blessé Louis-Ferdinand Destouches, qui deviendrait l'écrivain Céline, et qui racontait cette guerre, sa blessure, ses parents le visitant à l'hôpital, dans un roman intitulé « Guerre », qui sort la semaine prochaine, un nouveau Céline en 2022. C'est la première publication venue de ces manuscrits inédits de l'écrivain qu'on lui avait volés et qui furent retrouvés l'an dernier, rocambolesque aventure que le Figaro vous raconte à nouveau. Mais le Figaro nous dit aussi comment dans « Guerre », écrit en 1933, Céline, au fil de son récit, trouvait son style, ses fameux 3 points, ses aphorismes, son argot. Nous lisons donc avec retard un livre de promesses quand nous savons déjà la récompense. L'an prochain, 2023, Gallimard va sortir un texte de 800 pages intitulé « Casse-pipe ». Ça parle de guerre encore. Je lis cet extrait. On évoque l'alcool qu'on consommait au front. « J'avais l'estomac tout en flamme. Le blanc, c'est terrible d'accreté, celui de la cantine, c'est-à-dire. » Malgré les rigueurs de novembre, je ne sentais pas du tout la bise. Même dans un léger bourgeron, je brûlais par l'intérieur, j'étais gorgé de carbure. On attend la suite. Dans Lire, le magazine littéraire, dans Les Inrocs, dans L'Express et dans L'Obs, nous viennent des mots dépourvus de folklore, mais qui, par leur dénuement, veulent dire les classes populaires. Les mots d'Annie Ernaux, chez qui la politique ou la conscience sociale percutent l'écriture. Elle dit à Lire, magazine littéraire, à quel point la dimension sociale de Proust la heurte, mais est-ce le sujet ? Elle revient à Ernaux, honorée par un numéro des Cahiers de l'Erne et par la publication d'un roman d'amour où elle se raconte, elle, quinquagénaire, éprise d'un jeune homme de 30 ans, son cadet, qu'il appelait « la meuf » et qui aimait téléfoot. Dans Les Inrocs, l'encore jeune Édouard Louis dit ce qu'il doit, lui, fils du peuple, entrer en littérature à celle qui lui a appris, Ernaux, que le beau, en littérature, peut ne pas être la figure de style, mais la concision. Et la politique.
Et on parle enfin de perles rares.
Et c'est encore la France populaire. Ces perles rares, elles font la une du Populaire du Centre et de la Montagne, édition de Corrèze. Elles sont dans les villages le visage quotidien de la politique. On les connaît administrativement, c'est les sous le nom d'adjoint administratif principal, mais en vrai, ce sont nos secrétaires de mairie. Et loin de la grande politique, allons à Estivaux, 416 habitants, où Lydie Lascaux, embauchée en 83, munie de son bac G, va chercher le propriétaire d'un cabri qui est allé squatter le canapé d'un habitant. Ou bien allons à Bénin, 1284 habitants, où Josiane Milly, elle embauchée en 82, gère les pannes de téléphone, les arbres qui tombent sur la route, mais aussi le budget de la commune, où elle a créé une école et une maison de santé. Et vous voyez alors ce qui ressemble au bonheur, mais le bonheur comme souvent a été bréché, car Josiane et Lydie partent à la retraite. On va former à Limoges des spécialistes en tout. Vous lisez ailleurs, du plus profond de la France, des malheurs déjà connus. Libération, qui a bien combattu Marine Le Pen, maintenant fait entendre ses électeurs dans leur humanité. Tiens, dans un village de Gironde, où Didier agriculteur, qui se serre la vis à 1150 par mois, râle « Ah le voilà l'autre encore !» devant la photo de M. Macron dans ce journal local. Mais dans cette promenade de Libération, le vote populiste qui fait moins peur reste ambigu. À eux, Seine-Maritime, j'entends un lepéniste dire son malaise quand il va à Rouen. L'immigration, l'insécurité, nous, on ne l'accepte pas. En ville, les gens trouvent tout normal, ils sont habitués. Mais nous, les ruraux, quand on se fait siphonner un plein de gazoil, on est touché dans notre chair. Quel beau mot quand même. Sud-Ouest, j'en termine, nous emmène au village de Lourdios, dont les 90 suffrages exprimés, 52 Macron, 38 Le Pen, ont été annulés par le Conseil constitutionnel, par la faute de Jean Lassalle, qui a fait le malin, mettant en scène son abstention devant les caméras. Mais ce n'est pas à Lassalle qu'on en veut au village, mais aux juges suprêmes qui punissent tout le monde pour un seul. Ainsi se perpétue ce qu'on appelle le populisme.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.